Mon rêve de devenir Premier ministre s'est envolé. Je concède. Nous avons perdu un beau combat. C'est avec cet aveu très précis prononcé le 18 août 2015 par Mahinda Rajapaksa que démarre notre exploration.
Et quelle exploration ! On décortique cette élection législative sri-lankaise aujourd'hui et franchement, il ne faut surtout pas voir ça comme un simple fait historique un peu poussiéreux.
Ah non, bah non, c'est carrément le point de départ d'une saga politique et, on va le voir, économique, avec des rebondissements vraiment dramatiques.
C'est clair, et je dirais que le paradoxe de cette journée d'août, il est monumental. Parce que cet homme, il venait tout juste de perdre la présidence du pays en janvier.
7 mois plus tôt, ouais.
Exactement. Et là, boum, il échoue aux législatives. Sur le papier, c'était vraiment la fin d'un règne familial tentaculaire. Faut pas oublier que le gars a dirigé le pays d'une main de fer pendant 9 ans.
Oui, il avait écrasé la rébellion des tigres tamouls, placé toute sa famille aux commandes.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, l'horizon semblait marquer la fin définitive de cette dynastie.
Bah, pour bien comprendre cette fameuse défaite d'août, faut forcément regarder le coup de théâtre de janvier. Maithripala Sirisena, qui bat son ancien patron, Rajapaksa, avec, disons, 51,28% contre 47,58%.
C'était serré, mais ça a suffi.
Ouais. Et en août, le front de Ranil Wickremesinghe enfonce complètement le clou. Il remporte 106 sièges contre 95 pour le camp Rajapaksa. Moi, la façon dont j'analyse ça, c'est l'équivalent parfait d'une OPA hostile en entreprise.
Ah, c'est-à-dire ?
Bah, le bras droit du PDG qui était ici, l'ancien ministre de la Santé, s'allie avec la boîte concurrente pour virer son propre patron, tout puissant.
C'est une super analogie. Mais comme dans toute fusion forcée, la mécanique a vite montré ses limites. Ça a donné naissance à ce fameux gouvernement d'union nationale entre l'UNP et le SLFP.
Au nom du Yapalana, non.
Ouais, la bonne gouvernance. Mais en fait, la faille, elle est béante dès le début. C'est un mariage de pure tactique.
Un mariage de raison, quoi ?
Même pas. Une tactique pour le pouvoir, zéro conviction idéologique commune.
Ce qui explique pourquoi tout s'est effondré par la suite. On a eu le scandale des obligations de la Banque centrale.
11 milliards de roupies de pertes au passage.
C'est colossal. Et puis la crise constitutionnelle d'octobre 2018, avec ce moment complètement surréaliste où le pays se retrouve avec deux premiers ministres simultanés.
Une vraie pagaille.
Mais attends, j'ai une question là. La population venait tout juste de rejeter ce clan pour abus de pouvoir en 2015. Comment est-ce qu'ils ont pu justifier de revenir au pouvoir comme ça dès 2019 ?
Eh bien, je crois que ça s'explique par un besoin viscéral de sécurité. Faut se remettre dans le contexte, on a les attentats tragiques d'avril 2019.
Ah oui, avec plus de 250 morts.
Exactement. Et ces attaques, elles ont mis en pleine lumière des failles sécuritaires dramatiques dans ce fameux gouvernement d'union. Donc forcément, face à la panique, le discours d'ordre et de poigne du clan Rajapaksa
a retrouvé tout son sens pour les électeurs.
Voilà, ils ont déroulé le tapis rouge à Gotabaya Rajapaksa, élu président avec plus de 52% des voix en novembre.
C'est pas même d'une ironie tragique, parce que ce retour de balancier nous amène directement à la catastrophe de 2022.
Ah bah, 2022, c'est la ruine économique totale. Les pénuries, les coupures de courant interminables, le pays n'a plus de devise.
Et la chute finale est folle. Mahinda forcé de démissionner en mai sous la pression de la rue et Gotabaya qui fuit.
Vers les Maldives, puis Singapour en juillet, oui.
C'est un truc de fou. 7 ans après avoir concédé un beau combat électoral, le clan doit fuir non pas par les urnes, mais carrément par la porte dérobée d'un palais envahi par la population.
Ce qui laisse quand même planer une énorme question pour l'avenir.
Laquelle ?
Quand un pouvoir dynastique est chassé par la colère de la rue plutôt que par un vote démocratique, est-ce que les institutions sont vraiment assainies ?
Ou est-ce que c'est seulement le prélude à un futur vide politique encore plus dangereux ?